Fidèle Goulizia, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Africa World Radio.
Vous êtes journaliste et vous venez de publier votre premier roman intitulé Tchapalo Tango. Le tchapalo, une boisson très connue en Afrique. Le tango, une danse latinos également qui est très connue. Pourquoi choisir de mettre ensemble les deux mots?
Effectivement, le tchapalo et le tango, c'est bien une mixture très étrange, bien curieuse. Le tchapalo, qui est une bière de mil bien connue en Afrique, le tango, qui est une danse d'Amérique du Sud, de l'Argentine précisément, qui traduit tout simplement l'ivresse du pouvoir qui peut s'emparer d'un homme politique qui glisse dans une certaine autocratie alors qu'il a été élu démocratiquement. C'est l'histoire dans ce roman de ce jeune journaliste qui doit fuir son pays, qui doit s'exiler tout simplement parce qu'il est accusé d'une infraction assez lourde, c'est-à-dire qu'il est accusé de complicité de terrorisme alors que derrière ça, en fait, c'est un règlement de compte avec les dignitaires du parti au pouvoir. Et donc, Tchapalo Tango, c'est un cocktail, on va dire détonnant, effectivement, d'intrigue au sommet de l'État qui montre une fois encore que l'ivresse du pouvoir peut atteindre tout démocrate qui, une fois élu, glisse dans l'autoritarisme.
Justement, dans l'intrigue de cette histoire, on voit des mots qui font l'actualité, notamment en Afrique, le terrorisme, mais aussi la liberté de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des faits réels qui ont inspiré un peu ce roman?
Alors, ce roman n'est pas une autobiographie, ce n'est pas une autofiction, mais il peut s'inspirer, il s'inspire d'ailleurs de faits réels et d'une pratique du terrain en tant que journaliste reporter. En 2015, rappelez-vous de l'attentat du Radisson Blu, j'y étais une semaine après cet attentat qui a fait une vingtaine de morts et j'ai pu voir la résilience du peuple malien vis-à-vis du terrorisme. Et puis, il y a ce emprisonnement de notre confrère Ahmed Abba pendant 29 mois au Cameroun pour non-dénonciation d'actes de terrorisme. Ce sont les faits qui m'ont inspiré et qui montrent que la liberté de la presse est menacée dans un contexte de guerre contre le terrorisme. Qu'est-ce que le journaliste doit dire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas dire? Quelles sont les limites à notre liberté individuelle, aux libertés collectives dans cette grande guerre contre le terrorisme? Donc la question de la liberté de la presse, que ce soit en dehors de la guerre contre le terrorisme, dans une démocratie normale, est abordée. Dans ce roman, en dehors de la question du terrorisme, il y a des questions liées de façon pertinente à la démocratie. Vous savez que la liberté de la presse est un pilier important de la démocratie. Et dans nos jeunes démocraties, justement en Afrique, on se rend compte que les journalistes sont empêchés de jouer ce rôle-là pleinement. Peut-être parce que le modèle économique de la presse elle-même reste à revoir, mais aussi parce que les tenants du pouvoir ont peur justement que les malversations économiques, les malversations financières et même la corruption au niveau des élites politiques soient montrées et soient touchées du doigt par les journalistes qui n'arrivent pas à faire leur travail dans un contexte apaisé.
Le contexte que vous décrivez, c'est pratiquement la situation qu'on retrouve dans la plupart de nos pays, qui aujourd'hui, pour la plupart, sont considérés comme des démocraties en puissance. Est-ce que c'est une manière aujourd'hui de remettre en cause tout cela?
Tout à fait. Pour moi, Tchapalo Tango est une remise en question de ces jeunes démocraties sur le continent africain et même de ces vieilles démocraties sur la question de leur légitimité finalement, de leur capacité à représenter la volonté des peuples. Pour moi, il y a une crise des démocraties. Et quand on lit Tchapalo Tango, il se déroule dans deux pays au modèle démocratique différent. Il se déroule à Dougoutiana et à Kukui'land. Et pour ceux qui vont lire le roman, ils se rendront compte que le mandat d'arrêt international lancé contre le héros du roman, Paul Stokely, sera exécuté dans un pays dit démocratique qui est Kukui'land. Pour avoir fait la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien et le Bénin et bien d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, on se rend compte qu'il y a des parodies de démocratie. Le modèle démocratique béninois, par exemple, est mis en cause aujourd'hui avec une dérive autocratique du président Patrice Talon. On a pendant longtemps salué ces alternances mécaniques, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin, que ce soit en Guinée, que ce soit au Niger, au Mali, mais on se rend compte que cette démocratie pose problème. Les commissions électorales ne sont plus indépendantes parce que le système partisan fait que les partis politiques jouent la bataille de la démocratie et même de leur parti au sein de ces commissions électorales. Donc il n'y a plus de neutralité des commissions électorales. Au moment où on a critiqué les ministères de l'Intérieur à l'époque, les fichiers électoraux ne sont pas fiables. On a vu avec la polémique autour des fichiers électoraux récemment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali. Donc la question reste posée face à des fichiers électoraux, à des commissions électorales qui ne sont plus fiables. Donc nos jeunes démocraties sont effectivement en danger. Et il faut reconnaître que Tchapalo Tango parle de façon pertinente de cette crise démocratique qui touche les jeunes démocraties et même les vieilles démocraties. Il faut un modèle et un modèle politique qui remet en exergue le rôle des citoyens plutôt qu'un système partisan qui est bien sclérosé, parce que les partis politiques aujourd'hui ont du mal à montrer la représentativité qu'ils devaient donner justement à ces démocraties-là.
On pourrait ajouter au problème des démocraties africaines la question des troisième mandats. Vous êtes ivoirien. On voit que le président Ouattara, jusque-là, ne s'est pas prononcé clairement sur l'éventualité ou pas d'un troisième mandat. Au Sénégal, le président Macky Sall également entretient le flou. C'est la même situation en Guinée avec le président Alpha Condé, en Guinée, où même des manifestations ont été réprimées, il y a eu des morts. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème des troisième mandats?
Sur la question des troisième mandats en Afrique, je ne suis pas vraiment dogmatique. C'est-à-dire qu'une démocratie ne se limite pas à des élections. Un troisième mandat pour Alpha Condé, un troisième mandat pour Macky Sall, un troisième mandat pour Alassane Ouattara, ce n'est pas là la vraie question pour moi en démocratie. C'est le respect de la parole donnée, le respect d'un contrat social qui lie celui qui est élu au peuple. Sur la question, beaucoup de gens ne respectent pas la parole donnée. Beaucoup de gens ne respectent pas l'éthique et la morale en démocratie. Pourquoi saluer aujourd'hui les progrès réalisés au Rwanda par Paul Kagame alors qu'il a changé la constitution pour un troisième mandat? C'est bien parce que les situations sont différentes. L'Afrique de l'Ouest a connu beaucoup de dictatures. L'Afrique de l'Ouest n'a pas la même histoire que l'Afrique orientale ou l'Afrique centrale. Donc la question d'un troisième mandat se pose avec acuité en Afrique de l'Ouest. Elle ne se poserait pas peut-être en Afrique centrale avec tous les dictateurs qu'on connaît, ou en Afrique des Grands Lacs avec les crises que ces pays-là ont connues. Quand vous regardez la Guinée d'Alpha Condé, eh bien, monsieur Alpha Condé a plus de 80 ans, a la possibilité de léguer, donner en héritage une vraie démocratie au peuple. Le problème, c'est que il y a des pressions économiques, des contrats miniers qui font qu'aujourd'hui, l'entourage d'Alpha Condé est en train d'agiter un troisième mandat avec une nouvelle constitution qui va jeter dans la rue des centaines d'adolescents qui seront tués dans les fiefs de l'opposition. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour une démocratie? Quant au président Alassane Ouattara, qui a été imposé par Nicolas Sarkozy et la France et l'armée française, ainsi que les rebelles ivoiriens, je ne vois pas en quoi il représente un modèle démocratique. Pourquoi on parle d'un troisième mandat? Aujourd'hui, il faut simplement donner la chance à une nouvelle génération. Si Macky Sall veut un troisième mandat, eh bien, il a aujourd'hui, avec une parodie, un vernis démocratique, avec l'Assemblée nationale, avec tous les contours qu'il a, au niveau, tous les instruments démocratiques qu'il a, il peut effectivement aller vers la modification d'une constitution et parler d'un troisième mandat. Mais ce n'est pas de l'éthique, ce n'est pas de la morale en démocratie, tout ça. Tant que les vrais problèmes ne sont pas abordés en démocratie, c'est-à-dire une véritable alternance ou une véritable alternative au lieu d'une véritable alternance mécanique, on sera toujours dans ces histoires.
Je rappelle que nous recevons M. Fidèle Goulizia, vous êtes journaliste ivoirien et vous venez de faire paraître votre premier livre qui s'intitule Tchapalo Tango. Dans ce livre également, il y a la problématique du terrorisme. On voit que le Sahel aujourd'hui est assailli de toutes parts par les terroristes. Et la dernière actualité, c'est ce sommet de Pau qui a réuni le président français avec des présidents du G5 Sahel. Le G5 Sahel donc qui a donné encore carte blanche à la France pour qu'elle continue d'intervenir dans le Sahel dans cette lutte contre le terrorisme. Comment voyez-vous un peu cette incapacité de l'Afrique à prendre en charge cette question de sécurité sur son propre sol?
L'autodétermination à laquelle tous les Africains aspirent n'est pas que monétaire, économique ou financière. L'autodétermination, elle est aussi sécuritaire. Le fait de voir des troupes étrangères, qu'elles soient américaines, russes ou françaises, eh bien, s'installer durablement sur nos terres, notamment dans le Sahel, montre à quel point l'Afrique tout entière a failli. Voir la France jouer les premiers rôles avec l'opération Barkhane et le soutien justement à la force du G5 Sahel qui s'est mise sur place montre la faillite sécuritaire de nos États. L'autodétermination, elle est aussi sécuritaire. Pourtant, l'Union africaine a un véritable plan sécuritaire avec des puissances régionales comme l'Algérie, comme l'Angola ou l'Afrique du Sud. Mais en réalité, tant que la France jouera les premiers rôles dans le Sahel, il n'y aura pas véritablement la paix. Le président Macron a agité le sentiment anti-français pour justifier le fait que les États africains engagés dans le G5 Sahel devaient clarifier leur position. Mais le sentiment anti-français dont on parle en question, c'est la simple volonté des peuples. Regardez les manifestations à Bamako, c'est la simple volonté des peuples, des jeunes, de dire non finalement à une sorte d'intrusion. Parce que ce qui se passe au Sahel, c'est l'installation durable de troupes étrangères. La France n'est pas dupe lorsqu'elle s'installe dans le Sahel. La France simplement maintient ses positions situation face à l'arrivée des troupes russes, par exemple, face au fait qu'il y a des drones américains qui sont déjà au Niger, qui sont dans le Sahel et qui jouent un rôle prééminent. Donc la question, c'est de dire, attention, il ne faudrait pas qu'il y ait un prolongement de la guerre d'indépendance, de la guerre de décolonisation dans le Sahel. Parce que la première puissance régionale que cette guerre intéresse, c'est bien l'Algérie. On se rend compte que l'Algérie, effectivement, sur la base de sa position dogmatique en matière d'affaires étrangères, qui ne veut pas d'ingérence dans les autres pays, s'est abstenue. Tant que la France va jouer ses premiers rôles-là, l'Algérie, qui a la solution, parce que l'Algérie est passée par 10 ans de crise noire face au terrorisme, l'Algérie a la solution dans le Sahel. Mais tant que des puissances comme la France joueront le premier rôle, la Mauritanie, l'Algérie, le Tchad n'auront pas leur mot à dire. Et c'est là la vraie question de l'autodétermination sécuritaire dont on parle.
Pour revenir au personnage principal du roman, Paul Stockley, qui est lui-même sociologue de formation, mais qui atterrit dans une rédaction, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapprochement par rapport à votre propre parcours? On sait que vous êtes juriste international de formation et que vous avez quand même fait beaucoup de choses dans le journalisme depuis une dizaine d'années. Quel est le message que vous voulez lancer à la jeunesse africaine à travers quand même le parcours du personnage?
Une chroniqueuse littéraire française a pu écrire que Paul Stockley est finalement mon jumeau au regard de la similarité du parcours. C'est fort possible. Ce qu'il faut savoir de Paul, c'est qu'il a fini sa licence en sociologie. Il veut entamer sa maîtrise lorsqu'il doit faire face aux charges inhérentes à la grossesse de sa compagne, de sa jeune compagne, qui finalement a été chassée de la maison familiale. C'est au hasard d'une rencontre dans un chapalodrome, ce bistrot traditionnel où on commercialise le chapalo, qu'il va faire la connaissance de celui qui sera son mentor en journalisme, Bob Dossovi, dans le roman. Et c'est Bob qui va lui donner le nom de Stockley, en référence au leader du Black Panther Party, Stockley K. Michael, aux États-Unis, pour dire toute la force de caractère qu'il faut se donner quand on pense à se réaliser soi-même. Je suis juriste internationaliste, mais j'ai toujours pensé que le journalisme est un métier d'élite, qui n'est pas forcément réservé à ceux qui ont fait Bac plus 5 aux écoles de journalisme, mais qui se nourrit également de profils divers. Vous savez, pour interroger un président comme Nicolas Sarkozy, on ne vous demande pas d'avoir un doctorat en droit, mais il faut avoir de la culture quand vous êtes en face d'un avocat qui a un bagou extraordinaire comme Nicolas Sarkozy. Donc pour moi, le journalisme est un métier d'élite, c'est un art, il faut l'exercer, c'est aussi une science, il faut aller l'apprendre. Donc, Paul Stockley, notre héros, avec une licence en sociologie, va devenir l'une des plus brillantes plumes à Dougoutiana avant justement d'avoir les problèmes avec le parti au pouvoir. Pour vous dire simplement qu'il faut de la force de caractère dans la réalisation de soi. Et pour le message à la jeunesse africaine, c'est bien cela. On n'a rien à apprendre à cette jeunesse-là. Elle sait déjà se battre, cette jeunesse-là. Elle n'a même pas besoin de minima sociaux comme en Europe pour se battre, pour se prendre en charge. Seulement, sur le plan de l'éveil citoyen, sur le plan de la politique, il ne faudrait plus qu'elle donne sa voix à des élites, à une certaine élite qui est déjà formatée pour servir les intérêts de l'étranger. Et c'est ça le combat qu'il faut mener aujourd'hui pour cette jeunesse africaine.
Votre roman Chapalo Tango a été édité en France. Pour ceux qui vivent en Afrique et qui ont envie de le lire, comment ils doivent procéder pour l'obtenir?
Depuis l'apparition début novembre de Chapalo Tango en France, il y a un réel engouement des lecteurs africains et la question est toujours posée, à quand le livre en Afrique? Vous savez, les circuits de distribution ne sont pas, sont très complexes dans l'édition africaine. Nous sommes en train de travailler avec les plus grands diffuseurs au niveau de l'Afrique pour que Chapalo Tango, dès le premier trimestre de cette année, soit disponible, qu'on soit à Dakar, qu'on soit à Abidjan, qu'on soit à Conakry, à Niamey, ou à Nouakchott, il faut que Chapalo Tango, qui parle véritablement des problèmes de gouvernance, de démocratie en Afrique, puisse être disponible dans les mains de chaque lecteur africain. Nous y travaillons et je voudrais rassurer tous les lecteurs africains sur le fait que la maison d'édition, les éditions Capsio qui me distribuent, sont à pied d'œuvre pour effectivement permettre une bonne distribution, une bonne diffusion de ce roman auprès de tous nos lecteurs du continent africain.
Fidèle Gouzia, journaliste ivoirien, auteur du roman Chapalo Tango, merci en tout cas d'avoir répondu aux questions de Africa World Radio.
Merci infiniment, chers confrères, et vive le panafricanisme avec Africa World Radio.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien. À très bientôt sur Africa World Radio.